Et donc, je continue. On est en train de faire une étude suivie du livre des Actes. Donc, on est en Actes, chapitre 14. Et nous allons lire versets 8 à 18, la suite de notre texte. À Lystre se tenait assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Alors, j'ai donné un titre à ce message et je l'ai intitulé « Le croche-pied du diable ». Et on a dans ce texte donc deux serviteurs qui ne vont chercher qu'à faire ce qui plaît au Seigneur. Ils vont de ville en ville, ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ils voient ce boiteux de naissance. Ils sont en train d'annoncer l'évangile à la foule et il y a ce boiteux de naissance et Paul voit qu'il a la foi dans son cœur. Hein. Il est en train de boire les paroles de l'apôtre Paul. Il comprend que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu. Il croit dans son cœur, ça se voit. Alors, eh bien, Paul, voyant cela, lui dit « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se lève d'un bond et il se met à marcher. C'était un miracle. On ne sait pas quel âge avait ce boiteux. J'imagine peut-être une trentaine d'années. Admettons qu'il ait eu 30 ans. Ça faisait 30 ans que les habitants de Lystre le voyaient en train de mendier, puisque c'était de naissance, hein. En tout cas, dès qu'il a eu âge de mendier. Et les pauvres étaient connus finalement dans les villes, dans les villages, parce qu'on les voyait tout le temps à la porte de la ville en train de mendier. Et soudain, cet homme aux pieds tordus se relève droit sur ses pieds, et puis ses pieds qui étaient déformés reprennent une forme normale. Versets 11 à 13. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Et la foule avait probablement jamais rien vu de pareil. Et la réaction, elle est immédiate. Hein. Ils croient que les divinités romaines sont descendues sur la terre. Elles se sont incarnées, elles sont là devant eux. Et le diable, bien qu'il n'apparaît pas au premier abord dans ce récit, est pourtant bien ici, bien présent. Et c'est lui qui va pousser la foule à l'adoration, finalement, de ces deux hommes suite à la guérison accordée par les apôtres. Et j'aimerais vous parler ce matin de ce sujet du piège du diable dans lequel il veut nous faire tomber. Alors, il y a plein de pièges dans lesquels il veut nous faire tomber, mais ici, eh bien, il y en a un contre lequel on doit être en garde. Qu'est-ce qu'était en train de faire la foule, finalement? Elle était en train d'élever ces deux hommes en leur attribuant un grand pouvoir de guérison, hein, la capacité. Ils ont réussi à guérir ce boiteux. Ça s'était déployé par eux. Paul avait dit une parole, lève-toi, droit sur tes pieds, et le boiteux s'était levé. Et c'était pas rien. Finalement, par une parole sortie directement de la bouche de l'apôtre, le boiteux se lève. Si Paul n'avait rien dit, eh bien, le boiteux ne se serait pas levé. Et on ne doit jamais oublier que le péché de nos premiers parents dans le jardin d'Éden était quelque chose un peu similaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable leur a dit « Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et quand Lucifer a dit ça à Ève, il savait qu'il allait toucher une corde sensible dans son âme. L'idée de devenir comme Dieu, finalement, c'est quelque chose qui est dans l'homme. C'est en nous, quelque part, il y a un désir de s'élever. Qu'est-ce que ça signifie être comme Dieu? Dieu est unique. Il n'a pas d'égal. Il n'y a personne comme lui. Nul ne lui ressemble. Nul même ne peut s'élever un tout petit peu à être comme lui dans sa nature. Il est le créateur. Il est au-dessus des cieux. Il est plus qu'élevé. Il est supérieur par excellence. Et de même que la pensée d'être Dieu a séduit Lucifer, finalement, dans son cœur, en tant qu'ange, voilà, il s'est dit être comme Dieu, être même supérieur à Dieu. De même, cette idée, être comme Dieu, est passée dans le cœur d'Ève. Et nous, en tant qu'hommes, nous sommes des êtres petits, nous sommes faibles, et le diable veut nous donner de l'importance. Il veut que, eh bien, on monte et qu'on s'élève. Et qu'on puisse croire que l'on est quelqu'un ou que l'on est vraiment quelqu'une. Parce que s'il réussit à nous faire croire qu'en nous-mêmes, dans notre chair, nous sommes quelqu'un, alors, eh bien, il a réussi. Et on est sensible à la tentation d'être quelqu'un ou quelqu'une. Même le plus petit, on a envie d'être quelqu'un. Les disciples dans les évangiles, donc les 12 apôtres, ils sont finalement un échantillon de l'humanité. Ils représentent tous les hommes, ils nous représentent. Alors, il y en avait certains, certes, extravertis, il y en avait d'autres beaucoup plus discrets, mais finalement, ils nous représentent. Et qu'est-ce qu'on voit chez eux? Un jour, le Seigneur dit aux disciples, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Dans un autre texte, Jacques et Jean demandent au Seigneur, « Mais permets que nous soyons assis à ta droite et à ta gauche. » Et on voit, c'est dans leur cœur, un désir de s'élever. Et quand les autres l'apprennent, ils s'indignent. Non mais, pourquoi eux en fait? Les 10, ils s'indignent. C'est pas, oh ben, plaise à Dieu d'élever qui il veut. Non, mais pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Et il ne faut pas croire que nous, eh bien, nous sommes à part et nous sommes à l'abri d'un croche-pied du diable. Si nous sommes humains, et nous le sommes, alors eh bien, nous pouvons tomber. Et d'une manière invisible, sans que nous nous en apercevions, le diable peut nous suggérer des choses. Par exemple, il peut nous suggérer que nous avons atteint une certaine maturité dans le Seigneur et nous sommes aptes à un service quand même plus grand que nous devrions rechercher ou que l'on devrait nous donner. Mais Dieu dit, et j'aimerais à chaque fois mettre le pendant de la parole de Dieu, Dieu dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Il peut nous suggérer que nous sommes des chrétiens spirituels, que vraiment on a compris, nous, comment marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas le cas de tous, mais nous, on a compris comment marcher avec le Seigneur. Mais Dieu dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Il peut nous faire remarquer que nous, au moins, on ne pratique pas certains péchés que l'on peut voir chez d'autres frères et sœurs. Nous, on ne fait pas ça. Mais Dieu a dit que c'est celui qui dit « Oh Dieu, aie pitié de moi, Aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. C'est lui qui a été justifié. Il peut nous faire remarquer aussi que nous portons du fruit pour Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Alors ça souligne certainement une fidélité que Dieu récompense. Et Dieu dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? C'est aussi quelque chose qui peut souligner pour une église aux dépens d'une autre église. Ah, là-bas, il ne se passe pas grand-chose, mais chez nous, au moins, il se passe des choses. Hein? Il y a aussi un danger ici. Hein? Attention, attention. C'est la chute collective. Le diable peut aussi nous faire remarquer que nous sommes doctrinalement dans la pure vérité, l'entière vérité. Ce n'est pas le cas de tous. Mais Dieu dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Le diable peut aussi nous faire croire que nous, on comprend les problèmes des autres. Et on a des solutions parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a de la maturité, on a de l'âge dans le Seigneur. Hein. Mais Dieu dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Il peut aussi nous glisser qu'on prêche bien ou qu'on enseigne bien si on a une part, quelque part dans l'enseignement. Mais Dieu dit, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire, voilà, si c'est bien, ça vient de Dieu. Si c'est pas bien, ça vient de l'homme. C'est toujours comme ça. Alors vous me direz certainement, mais ça ne signifie pas que nous sommes comme Dieu, ou même qu'on s'approche en quelque point de Dieu. Mais la racine est la même finalement, hein. La racine est la même et c'est cette racine-là qui a séduit Ève et qui peut nous séduire nous aussi et sur laquelle bien le diable veut souffler pour essayer de raviver cette racine dans nos cœurs, dans nos âmes et nous faire tomber. Et finalement, eh bien, il y a des pensées qui sont discrètes, mais elles sont là, elles s'installent, elles sont réelles, elles peuvent éclore dans notre cœur et puis ben, voilà, une petite pensée de supériorité. Ce n'est pas quelque chose qui se montre, hein. Mais ça, c'est là. Ici, dans notre texte des Actes, le diable, par cette foule, était finalement en train de suggérer aux apôtres que c'était eux qui avaient fait, par leur bouche, par leur parole, ce grand miracle, cette guérison. Alors, vous me direz que c'était quand même grossier de dire qu'ils étaient des dieux. Hein? C'est grossier. Les apôtres ne pouvaient quand même pas penser ça. Mais c'était aussi grossier finalement pour Ève, hein, d'imaginer qu'elle puisse devenir comme Dieu. Mais on a surtout un enseignement ici sur les agissements du diable. Il veut nous faire tomber et il veut nous faire croire que finalement nous sommes plus importants que ce que les autres peuvent penser ou ce que nous pensons, hein. Et nous élever un peu et un peu plus au-dessus des autres hommes ou au-dessus de nos frères et sœurs. Et Dieu ici, dans ce texte, nous donne la solution pour être préservé d'une telle chute. On a la solution par la réaction des apôtres, réaction que nous n'avons pas toujours. Relisons ensemble d'abord le verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Et ici, on a un premier point. Pour se protéger, il faut s'humilier soi-même. Les apôtres ont déchiré leurs vêtements. Donc, on ne fait plus ça aujourd'hui, hein, culturellement, mais déchirer ses vêtements, ça veut dire ben, ils ont enlevé la belle apparence. Ils avaient une apparence comme tous les autres, ils étaient bien habillés comme à l'époque, voilà. Mais ils ont déchiré leurs vêtements et d'un seul coup, ils ont voulu enlever toute leur dignité, leur beauté, leur apparence, hein, s'humilier soi-même. Aujourd'hui, on ne s'arrache plus une manche si quelqu'un nous encense, hein, mais il faut retenir le principe, descendre nous-mêmes. David, lorsqu'il dansait devant l'arche de Dieu, a été critiqué par sa femme Michal, qui était une fenêtre ou un balcon. Pourquoi ? Parce qu'elle se disait, mais quand même, un roi ne devrait pas faire ça. Hein? Le royaume est en train de regarder le roi, et le roi est en train de danser. Regardez 2 Samuel 6, 22, ce que David a répondu. 2 Samuel 6, 22, vous pouvez garder votre main dans Actes. David dit, « Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » On voit ici la pensée de Dieu. Le jugement qui tombe sur Michal, qui dit une chose pareille, et David qui dit « Je veux paraître encore plus vil que cela. » Et on voit ce principe ici de descendre, de s'humilier soi-même dans son cœur. « Je veux m'abaisser à mes propres yeux. » David ne se prenait pas pour quelqu'un d'important parce qu'il était le roi d'Israël. Son cœur était simple, il était petit, il était humble. Et il voulait descendre volontairement. Et c'est ça que nous devons retenir. Descendre volontairement. Dieu veut que nous soyons capables de nous humilier volontairement. Et que nous le fassions. Alors attention toutefois à la fausse humilité hein, aussi. Notre cœur parfois peut jouer la carte de l'humiliation, mais qui cache finalement une autre forme d'orgueil tout aussi sournois. Dieu veut qu'on pense ce que l'on dit. Hein? Et si on ne pense pas, alors qu'on ne le dise pas. Et David ne pensait pas, le roi David ne pensait pas qu'il était un homme important, sage, intelligent, un guerrier pour Dieu. Il ne se prenait pas pour quelqu'un, mais par contre, il croyait que Dieu était avec lui. Ça, oui. Alors là, il en avait une absolue confiance. Et il croyait que Dieu était quelque chose. C'était lui qui était quelque chose et que c'était lui qui le fortifiait dans la faiblesse. Dans un de ses cantiques, David dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Et c'est intéressant parce que si des exploits sont possibles pour David, il prend tout de suite le soin de dire « Avec toi, avec mon Dieu. » Alors oui. C'est avec lui, lui d'abord, et moi ensuite, qui suis Dieu. Mais pour ce qui était de lui-même, David dit, je veux m'abaisser, je veux descendre à mes propres yeux. Et il y a toujours ce double visage finalement. Quand on lit toute l'histoire du roi David, on voit le David tel que Dieu nous le présente, un homme de qualité, un homme sage, un homme qui aime Dieu, un homme spirituel, un homme courageux. Et puis il y a le visage que David se présente de lui-même, où il ne cache pas sa faiblesse. Dans les psaumes, on voit toute sa faiblesse. On voit que, voilà, il se présente tel qu'il est. Il ne veut pas faire le beau, comme on dit aujourd'hui. Il est ce qu'il est, petit, il est faible, mais il compte sur le Seigneur. Et il devrait en être de même pour nous. C'est à Dieu de montrer ce qu'il veut au travers de nous. S'il a envie de montrer quelque chose, alors qu'il le fasse. Et notre part, nous, c'est de descendre. C'est de nous humilier et de ne pas nous prendre pour des personnes importantes. Il est écrit de Jésus, « Il s'est humilié lui-même. » Le Fils de Dieu, le Créateur, Jésus-Christ, « Il s'est humilié lui-même. » Combien plus nous ? Combien plus nous ? Comment pourrait-il en être autrement ? Mais on n'est pas toujours prêt, il faut le dire, à descendre, à nous occuper de tâches ingrates ou secondaires. Quelque chose en vue, honorable, oui, mais quelque chose, si vous voulez, l'humiliation de la croix, non. Là, on n'est pas toujours prêt. Mais Jésus s'est humilié. Il est descendu, déjà il est descendu du ciel. Il est descendu ensuite sur terre. Et quand il était sur terre, eh bien, il a continué à descendre. Et il nous l'a montré, notamment quand il a lavé les pieds des disciples. Il ne cessait de descendre, descendre, descendre. Et quand il lave les pieds des disciples, il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple de m'humilier devant vous pour que vous vous humiliez les uns devant les autres. Et que vous descendiez, vous soyez prêt à descendre et que vous soyez prêt à regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et c'est incroyable, imaginez le Fils de Dieu à genoux devant un disciple. Il est en train en train de regarder le disciple d'en bas. Ça nous confond, ça nous brise. Que nous, eh bien, on puisse voilà, nous mettre à genoux et nous regarder comme étant au-dessus, les uns les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Les apôtres Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements. Ils ne voulaient pas qu'on les regarde comme étant au-dessus de ce qu'ils étaient réellement. Regardez verset 15. Ils s'écrièrent, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Et je m'arrête ici. C'est le deuxième point que l'on peut retenir ici. Nous ne devons pas oublier notre nature. Ils disent, nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et ils ne voulaient pas que cette foule puisse croire qu'ils étaient supérieurs à eux. Non, ils étaient pareils, ils étaient identiques. Et nous sommes les mêmes. On est pareils par rapport à nos frères et sœurs. On est exactement pareils. On est comme notre voisin que peut-être nous critiquons. On est de la même nature. Et on a tendance à oublier facilement notre nature. Mais ce qu'on voit chez les autres, il se pourrait bien qu'on le fasse un jour. Et c'est souvent ce qui arrive. On voit, on juge, on critique, et on se retrouve à faire exactement la même chose. Et Dieu nous donne des leçons. Il nous dit, mais pourquoi as-tu pu croire que tu n'étais pas capable d'en faire autant? Tu es pareil, tu es de la même nature. Alors ça nous invite à la plus grande prudence. Notre nature est identique à celle des autres hommes, nous ne sommes pas différents. Alors certes, on n'a pas tous les mêmes faiblesses, c'est vrai. Il y a on a des faiblesses que Dieu veut combler, remplir, gommer par sa présence. Et c'est possible, quand on est en croix avec lui, alors il efface, il gomme nos faiblesses et c'est lui qui est là. Mais le péché est en nous. Il est en nous et il suffit qu'il y ait des circonstances qui soient défavorables, qui nous soient défavorables et que nous n'allions pas un certain jour et bing, et on le fait. On le fait. Quelqu'un me disait, avec surprise, j'ai menti. Une sœur, j'ai menti. Est-ce que tu peux imaginer ça? J'ai menti, j'ai pas menti depuis, et j'ai menti. Moi, une fois, je me suis surpris à dire un mot grossier. C'est sorti de ma bouche. Comment c'est possible? C'est pas possible. Oui, c'est sorti de ma bouche. Alors, pas que j'ai pas dit des mots grossiers dans le passé, mais c'est sorti. C'est que, on a un potentiel de péché qui est là dans notre cœur. On a une mauvaise nature. Et le péché est même pire dans toute son horreur, pire que ces deux exemples. Je ne veux pas développer, mais il peut sortir, il peut s'exprimer. Jacques dit, de notre langue, avec notre langue, on peut bénir et on peut maudire. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire notre problème, c'est le cœur. C'est notre cœur qui est mauvais et qui fait en sorte que, ça sort. Et le péché s'exprime sous toutes ses formes, dans toutes ses ramifications. Paul disait en Romains 7... C'est le péché qui habite en moi. Et après, il le redit, il dit, le péché habite en moi. Paul sauvé, le péché habite en moi. Et ce que l'on voit chez Paul, c'est qu'il n'oubliait jamais, quand il parlait, qu'il était de la même nature que ceux à qui il parlait. Il l'a dit dans la première épître à Timothée, il dit « C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je suis le premier des pécheurs. Ça veut dire, ben voilà, je peux commettre les pires des choses, les plus grands des péchés, les plus mauvais, je suis capable du pire, c'est en moi. Donc on a vu deux choses, s'humilier soi-même, descendre, et ne pas oublier que nous sommes de la même nature que les autres hommes. On peut pécher de la même manière. Voyons maintenant une troisième et dernière chose pour se protéger. Acte 14, et on va lire la fin, 15 à 17. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Et ici, c'est une troisième chose, c'est que après s'être humilié, après avoir rappelé qu'ils étaient de la même nature, ils vont recentrer les hommes vers la personne de Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la guérison, de ce miracle. Et il ne peut pas en être autrement parce qu'il est le Créateur. Il a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Et Paul va exposer finalement la beauté, la grandeur, la bonté de Dieu, maître des saisons, du ciel, de l'abondance dont les hommes jouissent. Et s'il y a un bienfait, s'il y a quelque chose de bon, eh bien ça ne peut être que Dieu seul. Si ce boiteux s'est relevé, alors c'est Dieu, Dieu qui l'a fait. Et ça devrait être un réflexe pour nous, rendre tout de suite gloire à Dieu. Non pas à nous, non pas à nous, disait le psalmiste, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Si quelque chose arrive de bien, alors eh bien, Dieu en est l'auteur et lui seul. Et on voit Paul et Barnabas auraient voulu être minuscules, disparaître dans cet instant où ils étaient devenus le centre. Ils disent non, ils étaient devenus l'attraction de cette foule en liesse. Non, on veut disparaître. On veut disparaître. Et si jamais nous devenons le centre, ou nous cherchons à être le... Enfin, nous ne devons pas simplement chercher à être le centre, mais on doit faire même mieux, c'est recentrer sur Dieu constamment. Recentrer sur la personne. Il est le centre, c'est lui. Et c'est lui que les hommes ont besoin de voir. Les apôtres ne vont même pas tenter d'essayer d'expliquer que oui, c'était eux, mais en fait, Dieu s'était servi d'eux. Non, ils s'humilient, ils déchirent leurs vêtements, ils veulent disparaître et ils élèvent Dieu. C'est Dieu. Que nous ne soyons plus et que vous ne voyez que Dieu seul. Que Dieu seul. Disparaître. Et lorsque le diable nous élève d'une manière ou d'une autre, il faut déchirer ses vêtements et élever le Seigneur. Tout de suite. Non, le centre, c'est le Seigneur. C'est lui l'auteur du bien. Et ça aide à dire tout de suite, merci Seigneur. Hein? Merci Seigneur. On se protège. Ça ramène au véritable auteur de toute chose. Vous vous souvenez de ces Grecs qui sont venus voir Philippe dans les évangiles et ils lui ont dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Il n'y avait qu'une chose, une seule chose qui les intéressait. On veut voir Jésus. C'est lui. C'est lui qui est important. Et à ne pas en douter, c'est là ce qui est nécessaire aux hommes. Ils ont besoin de voir le Seigneur et rien que le Seigneur. Et le diable voudra toujours essayer de nous mettre en avant pour qu'on oublie finalement Dieu et on ne voit plus Dieu. C'est ce qu'il fait ici dans les Actes. Dieu a fait un miracle. Et le diable a centré les hommes sur Paul et Barnabas. Pourtant, et c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que Paul était en train de prêcher. Il venait d'exposer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il avait centré les cœurs et les pensées sur Jésus-Christ. en disant « Il est le Fils de Dieu, c'est lui qui a fait tous ces miracles dans le passé, etc. » Et il voit ce boiteux qui a les yeux qui pétillent, qui croit. Il voit la foi, il dit « Lève-toi droit sur tes pieds. » Par ce miracle, Dieu voulait enfoncer le clou finalement. Hein, dire « Mais regardez, c'est lui. Ce que je vous dis, il le fait, regardez. » Eh bien, pourtant, ils ne vont pas se mettre à dire oh, « Jésus-Christ, Fils de Dieu !» Non, le diable va passer par là et va orienter leurs pensées vers les faux dieux, vers les fausses divinités et leur faire aduler finalement les apôtres comme étant l'auteur de ces choses. Et le diable veut faire perdre de vue le Seigneur qui est derrière chaque chose. Il y a donc un double objectif hein, de sa part, faire un croche-pied en élevant, et puis faire perdre de vue que c'est Dieu qui fait les choses. C'est lui l'auteur du bien, du vrai et du bon. Et Dieu veut nous utiliser parce que nous sommes ses enfants. Il veut que nous servions à sa gloire. Il veut que nous fassions du bien autour de nous. Mais quand ça nous arrive, quand il nous fait la grâce d'être utile, alors toujours gardez le bon réflexe. Déchirez vos vêtements, descendez, humiliez-vous. Rappelez-vous, je suis de la même nature que les autres. Je ne suis pas supérieur, il n'y a rien en moi qui est supérieur. Et je recentre vers Dieu. Oh, que Dieu est grand, que Dieu est bon. Il est merveilleux. C'est lui l'auteur du bien. À lui seul la gloire. On va s'incliner dans la prière.